et Arnaud Jour.
À l'occasion de la conférence internationale sur l'observation des océans qui se déroule cette semaine à Venise, nous allons faire le point sur les connaissances que nous avons aujourd'hui de la partie bleue, la planète.
Avec nous pour en parler, trois invités, l'océanographe Pierre Bahurel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Mercator Océan qui analyse et prévoit l'état de l'océan, on va dire, en temps réel. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Alors, vous êtes en direct des studios du MOVE à Toulouse. Vous êtes bien installé ?
Je suis très bien, oui.
Alors, en route, on va dire, vers le studio, parce qu'il est pris au piège par les embouteillages parisiens, il y a l'architecte Jacques Rougerie, spécialiste de la construction sur et sous les mers, qui va nous rejoindre dans peu de temps. Voilà, il nous parlera de son projet Sea Orbiter, qui offre de nouvelles perspectives d'exploration des fonds sous-marins.
Mais on démarre tout de suite avec Pierre-Yves Le Traon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de programme à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Et on démarre avec vous parce que vous êtes en direct de Venise, justement. Et vous allez devoir nous quitter rapidement pour suivre la conférence mondiale sur l'observation des océans. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est le but de cette conférence ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment un événement majeur dans l'observation des océans. Donc, on a cette grosse conférence qui regroupe un peu plus de 600 participants et des scientifiques, responsables d'agences internationales, nationales, en charge de l'observation des océans. Et l'objectif de la conférence est de faire le point sur tous les développements menés depuis 10 ans pour mettre en place cette observation globale des océans et sa surveillance. Et on travaille actuellement dans le cadre de la conférence donc d'établir une feuille de route pour les 10 prochaines années et établir également les priorités quant à l'observation des océans.
Alors justement, on s'oriente vers quoi ?
Il y a deux choses déjà. On a fait des progrès majeurs dans l'observation des océans depuis 10 ans. Donc on a mis en place des systèmes, que ce soit d'observation par satellite, d'observation par moyen in situ, navires de recherche, engins autonomes, comme le réseau Global Argo, qui font que maintenant on a une capacité d'observation globale de l'océan qui nous permettent de suivre les variations de l'océan et surtout de quantifier le rôle extrêmement important que l'océan a sur le climat de la planète et de son devenir. On sait que l'océan se réchauffe, on sait que le niveau de la mer augmente, que la banquise fond, etc. Mais tout ça, on le sait parce qu'on a pu mettre en place des moyens d'observation sur les 10 dernières années. Et donc l'enjeu principal de la conférence, il y a deux choses. C'est d'une part permettre qu'on puisse poursuivre ces observations sur le long terme. C'est vraiment l'enjeu principal, hein, d'avoir des organisations et des accords pour que cette observation des océans devienne permanente. Donc c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Et l'autre enjeu, c'est de développer davantage nos capacités d'observation, en particulier pour des paramètres qu'on suit peut-être un peu moins bien maintenant parce que les technologies ont évolué au niveau de la biogéochimie des océans, des écosystèmes, du devenir du gaz carbonique, etc. Donc là, il y a deux enjeux principaux, hein, la pérennisation des systèmes actuels, que ce soit par satellite ou mesure in situ, et l'évolution vers des nouveaux paramètres.
Merci Pierre-Yves Le Traon. On vous laisse partir travailler et on espère vous revoir très bientôt pour que vous nous racontiez et que vous nous expliquiez un petit peu ce qu'on a pu obtenir à cette conférence dans une prochaine émission.
Bonne journée.
Au revoir.
Alors Pierre Bahurel, les scientifiques estiment que l'on ne connaît que 10% des espèces marines et seulement 5% des océans ont été explorés par l'homme. Vous confirmez ces chiffres ?
Alors je vais reprendre le propos de Pierre-Yves à Venise là, qui expliquait qu'en fait on s'est, en termes d'observation de l'océan et en termes de moyens d'analyse des quantités, donc on a 500 000 observations qu'on gère chaque jour là, on s'est d'abord et avant tout concentré sur la partie physique de l'océan, ce qu'on appelle entre nous la partie physique, c'est la température, la salinité, les courants, tout ce qui permet vraiment de décrire l'état de l'océan dans ses premiers paramètres. Et on commence à maîtriser assez bien cette partie-là. On a des satellites qui nous renseignent sur les paramètres essentiels. On a des mesures à la mer que Pierre-Yves a décrites qui nous permettent également d'y accéder. Et on a des gros modèles qui mettent tout ça en cohérence. Et là, maintenant, on se tourne vers la partie qui est un deuxième enjeu qu'on a devant nous, qui est de relier ça justement à l'ensemble du milieu vivant. C'est-à-dire d'arriver à faire le lien entre l'état de la physique de l'océan, l'océan se réchauffe, ok, que se passe-t-il pour les espèces marines qui vivent dans toutes les ressources qu'on doit exploiter durablement et protéger.
Mais finalement, on ne sait presque rien de ces océans, c'est assez extraordinaire.
On sait, on a l'habitude de... Oui, on a l'habitude de comparer ça à l'exploration du système solaire, donc il ne faut jamais oublier de bien observer la planète sur laquelle on vit. Oui. Il y a encore pas mal de choses à faire.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a un véritable défi de connaissance à relever, hein. Comme le constate aussi Thierry Canteri, il est le directeur du parc naturel marin d'Iroise, une aire marine protégée de l'ouest de la France.
Dans le domaine maritime, il y a énormément de choses qui sont inconnues. Dans le domaine terrestre, on arrive à voir à l'œil nu les problèmes de déforestation, même si on n'est pas expert. Dans le domaine maritime, il faut aller sous l'eau pour voir. Et aller sur l'eau déjà, et aller sous l'eau ensuite. Aller sur l'eau, c'est difficile parce qu'il faut des bateaux, il faut des moyens techniques. Et aller sous l'eau, ça l'est encore plus parce qu'au-delà d'une certaine profondeur, il faut y aller soit avec des plongeurs expérimentés, soit avec des machines, donc des robots, des choses comme ça, ou des techniques acoustiques. Donc il y a un vrai défi de connaissance. Et il y a de la connaissance sur le milieu marin. Il y a depuis des dizaines d'années, des scientifiques travaillent sur le milieu marin, mais le besoin qu'on a actuellement, c'est un besoin de ce qu'on appelle de monitoring. Alors le terme, c'est un terme un peu anglo-saxon, qui n'est pas très joli, mais en fait, c'est de faire du suivi par étapes régulières et de pouvoir avoir une série de données sur des éléments de patrimoine, de biodiversité. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on n'a pas forcément les séries de données. Je vais vous donner des exemples. Après le naufrage de l'Erika en 1999, on s'est rendu compte, tous les élus, les hommes politiques, les autorités publiques, qu'il manquait de données en Bretagne sur la biodiversité marine, donc les fonds marins, les habitats. Et il y a un programme qui a été mis en place à ce moment-là, donc depuis 10 ans, vous voyez. Donc on ne part pas de zéro, mais malgré tout, on a encore un grand chantier devant nous de connaissances.
Pierre Bahurel, ce grand défi de connaissance, c'est justement celui que vous avez relevé avec vos confrères en créant Mercator Océan. L'idée, c'est d'observer en temps réel et de prévoir l'état des océans dans toute leur étendue, en surface comme en profondeur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche ?
Alors, Mercator Océan, c'est un centre qui est basé à Toulouse et qui est en lien avec un très grand nombre de partenaires à travers le monde et en France, en Bretagne, en PACA, en région parisienne, un peu partout, parce qu'on a un premier rôle qui est de récupérer, de rassembler l'ensemble des données, des observations qui ont été traitées, validées, donc elles viennent des satellites et des mesures en mer, on l'a déjà dit. Et en fait, notre métier consiste, nous, à modéliser, c'est-à-dire transmettre cette information à des modèles numériques, à peu près les mêmes que ceux que Météo France exploite pour l'atmosphère, sauf que nous on s'intéresse à l'océan, et à rendre une information qui est la plus cohérente possible en température, salinité, courant, comme je l'ai dit. Et puisqu'on parle de la conférence de Venise, il y a eu une conférence il y a 10 ans, qui a été accueilli par la France à Saint-Raphaël. Et c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé entre 1999 et 2009, parce que on est assez à l'aise sur cette échelle des 10 ans, parce qu'on a quand même une marge de progrès qui nous permet de réaliser des défis, enfin de réussir ça.
Et oui, puis, il y a eu beaucoup d'émulation autour de cette recherche dans les océans. C'est vrai qu'il y a des projets qui émergent un peu partout. Sans doute, c'est peut-être lié, et on voit avec votre projet Mercator Océan, au développement des techniques aussi qui permettent de mieux explorer ces immenses profondeurs.
Mais tout à fait, parce qu'on a on a eu à un moment donné une, on va dire, c'est pas une chance, c'est qu'on a su saisir la rencontre de plusieurs aspects. D'abord, on avait une océanographie spatiale, c'est-à-dire des satellites qui étaient à maturité, qui étaient capables de nous fournir des observations de très grande précision, et en plus une observation qui revenait de façon systématique en temps réel avec une couverture qui couvrait évidemment l'ensemble du globe. Comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit de la surface. Évidemment, on peut pas
aller jusqu'au fond.
Voilà. Après, on a eu une mesure en mer, c'est-à-dire des bateaux, des engins autonomes, des bouées dérivantes, qu'on a également inscrit dans une logique de temps réel. Et troisième aspect, on a vu une capacité de calcul numérique, donc en gros les supercalculateurs, qui devenaient plus accessibles à des équipes qui étaient de taille correcte pour pouvoir travailler à tout ça. Et enfin, à ce moment-là, c'est cristallisé cette connaissance qui avait été acquise par le domaine de la recherche en France, en Europe et au niveau international, pour soudainement arriver à un monitoring, puisqu'on a déjà employé ce terme-là, c'est-à-dire une surveillance permanente de l'état de l'océan. Et donc cette rencontre de toutes ces techniques-là, du spatial, de mesures en mer, de la modélisation et de la connaissance de l'océan, c'est-à-dire la connaissance de l'expertise, fait qu'aujourd'hui on a des systèmes de surveillance en temps réel qui couvrent l'ensemble du globe. Et il y a plusieurs facteurs qu'il faut regarder, donc il y a la partie technique, et puis il y a également la partie d'organisation, de décision, du domaine humain, c'est-à-dire ces communautés que j'ai décrites, on peut, dans différents d'autres thématiques, on peut les voir de façon assez décorrélée, c'est-à-dire entre l'observation du spatial. On voit bien que c'est des métiers très différents. Les gens qui font des satellites, ou des gens qui vont en mer mesurer, ou des gens qui font de la modélisation dans des labos, ont des métiers qui sont assez différents. En océanographie, on a réussi quelque chose d'extraordinaire il y a une dizaine d'années, c'est de réunir l'ensemble de ce monde-là et de casser toutes ces frontières-là pour avoir aujourd'hui une capacité de surveillance qui est elle est unique au monde au sens où on a en 10 ans franchi des barrières technologiques qu'on pensait pas pouvoir franchir.
Alors Jacques Rougerie nous a rejoint dans le studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte. Alors on parle de l'état aujourd'hui de l'observation des océans. Alors vous avez un outil pour observer les océans. Cette fois, c'est en allant directement dans la mer. C'est le Sea Orbiter. Alors ça ressemble un peu à un projet de Jules Verne. Les auditeurs peuvent aller voir en tapant Sea Orbiter sur un moteur de recherche l'aspect physique. Mais grâce au Grenelle de la mer et à la volonté politique, on va dire, de la France de s'affirmer comme la deuxième puissance maritime qu'elle est dans le monde, votre projet va voir le jour. Alors racontez-nous ce projet.
Ce projet est né de Jacques Picard, qui avait déjà fait une dérive au cœur du Gulf Stream avec le Ben Franklin en 1969 et qui a suivi tous mes travaux d'habitat sous la mer. Donc le Sea Orbiter, c'est un peu cette continuité et c'est un outil complémentaire de tous les outils qui existent, bien entendu. Ça ne remplace aucunement les outils existants, au contraire. Simplement, c'est autrement, explorer les océans autrement, en étant en permanence sous la mer. C'est-à-dire, il y a un équipage qui va naviguer au cœur de ces océans, à très peu de profondeur, entre 0 et moins 12 mètres, avec un œil ouvert sous la mer, puisque ce vaisseau, donc imaginez un bateau de 51 mètres de long, qui est à la verticale, comme une bouée, en quelque sorte, avec 20 mètres au-dessus de l'eau, 30 mètres en dessous de l'eau, avec 9 ponts, dont 5 ponts seront sous la mer, avec de grands hublots qui permettront donc à cet équipage, dont je ferai partie, d'observer les océans et de sortir. Surtout, une des particularités du Sea Orbiter, c'est qu'il y a les deux derniers ponts qui sont pressurisés, c'est-à-dire qu'on équilibre la pression interne par rapport à la pression externe, ce qui nous permettra de sortir autant de fois qu'on veut directement sous un grand plateau, donc un grand flotteur qui se trouve à moins de 12 mètres, qui est le système de stabilité de l'engin, puisque nous avons d'ailleurs tester cet engin au Marinetech, qui est le plus grand centre d'essai en Europe, qui a fait un modèle au 15e et qui a fait 6 mois d'essai sous toutes conditions de vent, de mer et de courant.
Marche.
Et ça marche, ça a donné des résultats. C'est le Marinetech quand même, c'est un label, le Marinetech. Donc c'est un engin qui est fiable, qui marche, enfin qui navigue plus exactement à la mer, voilà.
Et c'est donc une grande première, il n'y a jamais eu d'équivalent.
Non, il n'y a pas eu d'équivalent, c'est pas le but n'est pas de faire différent pour faire différent, le but n'est pas là, c'est d'explorer les océans en offrant aux hommes cette sécurité, cette permanence de dériver au cœur de ces grands courants océaniques. Bien entendu, il y a des motorisations qui va permettre pour des questions de sécurité, de s'écarter des rivages ou de s'écarter d'un problème qui peut arriver. Mais le grand principe, c'est de dériver au cœur de ces océans pour observer la faune et la flore, surtout la faune, et la faune migratoire ou des faunes de phénomènes de DCP, c'est-à-dire d'agrégation autour du Sea Orbiter. Et je pense en toute humilité qu'on va observer des phénomènes jamais observés, puisque l'homme sera 24 heures sous 24 en observation. C'est ça la grande nouveauté.
C'est là où ça fait quand même un peu Jules Verne. Mais c'est vrai,
oui,
c'est
alors
fascinant.
C'est vrai que l'engin, le design... là aussi, c'est-à-dire qu'il est vertical. On est parti d'un cahier des charges d'utilisation de cet engin. On est parti d'une technologie avec le Marinetech, avec la COMEX, donc avec des gens qui savent de quoi on parle quand
sérieux.
On parle de l'offshore. Et c'est vrai, honnêtement, que vu ce que colporte ce orbitaire, ce symbole en quelque sorte, j'y ai rajouté un petit brin de malice, de design, si vous voulez. Mais c'était déjà bien caréné, la coque était déjà bien définie avec cette forme. C'est la meilleure stabilité qu'on puisse avoir. Donc c'est vrai que la tête même du ce orbitaire, le poste d'observation rappelle un petit peu ces guerriers qui protègent l'océan. Donc on peut trouver toute une symbolique à travers ça.
Alors ce projet devrait voir le jour en 2011. Pierre Bahurel, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est la part du rêve. Et j'ai un deuxième rêve qui consisterait à relier un petit peu ce voyage au gré des courants où on a le temps de se poser et d'observer et d'apprendre vraiment au cœur du sujet, avec ces voyages numériques qu'on propose nous en océanographie opérationnelle aujourd'hui, c'est-à-dire grâce à toute cette capacité d'observation satellite, en mer, tous ces modèles, on a une capacité de voyager en 3D, de connaître la température à 3000 mètres de profondeur avec 2 semaines d'avance. C'est ce qu'on propose à Mercator Océan et c'est ce que proposent la douzaine de centres au niveau international qui font ce même genre de travail. Et donc ce serait génial d'arriver à coupler ce voyage numérique que nous on propose avec ce voyage en vraie grandeur. Et on le fait, puisque évidemment la navigation maritime ou les campagnes en mer qui vont observer avec des mesures qui sont liées dans le cadre de programmes scientifiques utilisent ces prévisions océaniques qu'on observe. Donc arriver à lier cette prévision qui est liée à l'observation avec ce voyage en vraie grandeur, c'est quelque chose d'intéressant.
Alors Jacques Rougerie, vous êtes prêt à coopérer?
Évidemment, c'est évident. Moi, je ne suis qu'un architecte. Je reste bien à ma place et ce n'est pas à moi de définir les programmes scientifiques d'utilisation. Bien entendu, vous êtes invité et j'en serai ravi. Il y a énormément de choses à faire avec cet engin et on peut vous offrir la possibilité de développer un thème particulier qui vous est propre. Donc, bien entendu, c'est une plateforme qui accueille des scientifiques, mais une fois de plus, ce n'est pas à moi de définir les programmes scientifiques. Donc, je vous invite d'autant plus.
Je voudrais juste raconter l'anecdote qui est arrivée il y a 12 ans maintenant, où on démarrait juste notre capacité de prévision en temps réel. Et j'étais en campagne en mer sur un navire de l'Ifremer. Et j'étais à la passerelle du navire et on devait faire une station fixe, puisque vous le savez peut-être, on doit donc faire descendre des engins à la mer et rester vraiment immobile pour que la mesure soit la plus précise possible. Oui. Et donc on jouait avec les prévisions de courant que moi j'avais en temps réel et la connaissance qu'ils avaient de l'observation réelle, c'est-à-dire du milieu physique qui était le leur, puisque c'était des vrais marins entre guillemets. On avait donc une confrontation d'idées. C'était quelque chose, c'était une rencontre assez extraordinaire justement de cette capacité à prévoir et puis de cette belle connaissance du milieu. Donc j'espère qu'on fera des rencontres de ce genre-là.
Salutation. I'm going back where I belong. The salt and the sea and the storm saved them all for me.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous parlons aujourd'hui de l'observation des océans.
Alors, Pierre Bahurel et Jacques Rougerie, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a cette grande mobilisation générale sur le climat. Il y a ce sommet des chefs d'État sur le climat à New York. Et on sait évidemment que les océans jouent un rôle tout à fait important dans ce phénomène considérable. Est-ce que justement, c'est un des grands thèmes de préoccupation actuellement de la recherche et de l'observation des océans? Alors c'est peut-être
Pierre
une question
Bahurel.
Pour Pierre Bahurel.
Le rôle des océans sur le climat?
C'est une question pour tout le monde, évidemment. Donc chacun sait que 70% de la surface de la planète sont couvertes d'océans. Donc évidemment, l'océan est une composante essentielle du climat. Et je pense que c'est reconnu par tout le monde aujourd'hui. Donc il y a une responsabilité évidente à avoir une surveillance de l'océan et ensuite à avoir une capacité d'analyse de tous les signaux qu'on élabore ou qu'on observe ou qu'on analyse.
Mais sur votre site, par exemple, pour sensibiliser le plus grand nombre, depuis le mois de juillet, on peut suivre en temps réel l'évolution de la température de l'océan.
En fait, chacun son métier, évidemment. Les décisions politiques sont pour les décideurs politiques. Le nôtre consiste à vraiment à leur donner le maximum d'informations pour qu'ils puissent décider en connaissance de cause. Donc d'abord d'avoir une surveillance sur la plus longue durée possible, de telle sorte qu'on puisse observer et analyser si les les situations sont normales ou anormales. Donc là, on s'efforce, nous, d'avoir des simulations, puisque c'est notre métier ici, qui soient sur plusieurs dizaines d'années. Et ensuite, de simplifier, d'arriver à extraire de cette... Parce qu'on génère des gigaoctets et des gigaoctets d'informations, d'arriver à extraire un signal qui soit le plus simple possible. Par exemple, l'augmentation du niveau de la mer, par exemple, l'augmentation des températures, etc. Et donc... Mercator Océan, on n'a pas le mandat ou on n'a pas le métier, hein, l'expertise pour aller analyser de façon très fine, interpréter ça d'un point de vue du climat. Là, c'est une autre communauté qui va le faire. Par contre, on s'efforce de fournir la matière première la plus qualifiée possible à ces experts.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faut s'inquiéter sur l'état de nos océans à partir des données, de tout ce que vous observez, de tout ce matériel que vous collectez?
Je crois que la réponse, les scientifiques l'ont très très bien apportée pendant ce Grenelle de la mer. C'est évident qu'il faut s'inquiéter. Bon, il faut pas dramatiser dans le sens baisser les bras. Hein. Je crois que les scientifiques ont bien analysé ce qui se passe. Du moins, on a une lecture qui devient de plus en plus évidente. Et il y a des actions à mener à différents niveaux. Comme il l'a très bien dit, chacun à sa place. Donc moi, nous à notre place, c'est un outil, c'est orbitaire, non pas, c'est pas un bateau océanographique. Une fois de plus, ce n'est pas un bateau. À moi de définir la science océanographique française, la recherche française en océanographie, c'est un bateau de communication. Donc il faut au niveau du grand public, qu'il faut que le public, et plus particulièrement les écoles, donc on a un programme avec l'éducation nationale, puissent agir et leur donner une information validée, bien entendu, par les scientifiques. Donc, si orbitaire, c'est un outil, une plateforme de communication donc par rapport au Grenelle de la mer.
Première sortie de si orbiteur prévue, c'est quand même de suivre le Gulf Stream et dériver au cœur du courant pour étudier justement les phénomènes climatiques.
Non, mais tout à fait. Une fois de plus, l'équipage et les 18 membres d'équipage du si orbiteur dont je ferai partie, il y a 4 places qui sont réservées à des scientifiques, donc suivant des thèmes, qui donc valideront les programmes et valideront la qualité des résultats pour ensuite, puisqu'il y a une charte qui est prévue à bord du Cerbiter, on doit communiquer toute information vis-à-vis du grand public. Puisque, une fois de plus, notre but, c'est pas de faire un bateau océanographique, mais c'est de faire un bateau, même si on a des données scientifiques, de pouvoir les communiquer au niveau de l'éducation nationale. Voilà.
À Pierre Bayural, l'état des océans, que dit Mercator?
Je voudrais rajouter, donc Mercator, il le surveille, il le décrit, et il y a une chose que je voudrais rajouter à ce qu'a dit M. Rougerie, c'est qu'on a justement dans notre communauté, on s'applique des principes qui sont de libre circulation de l'information et d'essayer de la valoriser, c'est-à-dire de la rendre, de lui donner de la valeur pour le plus grand nombre, le plus possible. On travaille au niveau européen à ça, on s'est tous mis d'accord avec 60 partenaires en Europe. Il y a 29 pays qui sont concernés pour que nos informations soient accessibles de façon libre et gratuite à n'importe qui. C'est-à-dire que être un expert qui est à l'Agence européenne de l'environnement, par exemple, qui va l'analyser, ou ça peut être une PME qui va essayer de travailler à un outil statistique qui va ensuite essayer de valoriser.
Oui, parce que le problème de fond, finalement, c'est toujours la question de l'impact des comportements humains sur la nature, et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser, pour
exactement.
Conclure, Jacques Rougerie.
Exactement, c'est un problème d'éducation, il faut que les jeunes générations s'approprient le développement durable et comprennent, participent. Donc le programme de l'écologie du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Éducation nationale, donc auquel le Cerbiter participe, c'est vraiment dans ce sens-là. Il faut agir, c'est plus maintenant uniquement l'éveil, il faut agir. Mais comment? Il faut comprendre et comment agir, voilà.
Pierre Bayrel, pour conclure, aussi la mutualisation des connaissances, c'est important.
Au plus grand nombre et avec la meilleure qualité d'information disponible, avec la meilleure expertise qui soit rendue au plus grand nombre. Et évidemment, la plus grande continuité, parce que c'est une responsabilité qui est une responsabilité, à mon avis, suprême, individuelle de chacun, et puis des gouvernements, puisqu'on parle d'eux pour Copenhague, de garantir cette continuité d'information et cet accès à l'information. On joue notre petit rôle là-dedans et on s'efforce de transmettre cette idée et cette information sur l'océan.
C'est pas du vent.
C'est maintenant le moment de retrouver Serge Auru, le directeur du WWF France. Bonjour Serge.
Bonjour Arnaud.
Alors que les chefs d'État et de gouvernement de la planète se réunissent aujourd'hui à New York pour un sommet exceptionnel sur le climat, vous nous annoncez le retour de la taxe Tobin.
Tobin ? Oh non, Tobin. Nous vivons une belle époque. Les idées jadis d'avant-garde sont sur les lèvres des femmes et des hommes au pouvoir. La semaine dernière, notre président a pourfendu à juste titre le PIB et adoubé les indicateurs sociaux et environnementaux. Et maintenant, c'est la taxe Tobin qui est soutenue par Gordon Brown, Bernard Kouchner, José Manuel Barroso. La politique de l'équité aurait-elle gagné les consciences ? Est-ce une façon de consommer la révolte ou de cannibaliser les stratégies de rupture ? À vous de juger.
Alors, Tobin, notre Tobin.
Eh oui, bonne question, Cécile. Depuis plus de 35 ans, les antilibéraux et autres altermondialistes ont repris et vanté l'idée de l'économiste James Tobin, prix Nobel d'économie en 1981. Et voilà donc que taxer les transactions financières n'est plus un sujet tabou. Ce grain de sable dans les rouages trop bien huilés de la finance vise, selon James Tobin, à limiter la spéculation des oncles Picsou. On comprend cette période de crise bancaire où ce sont finalement les États et donc les contribuables qui ont régressé la machine financière que l'idée d'une fiscalité transnationale ressurgisse au grand jour.
À quoi servirait-elle ?
À tenter de rééquilibrer notre planète dont les États sont trop peu solidaires. Avec cette taxe Tobin, on pourrait redonner de l'espoir à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. James Tobin prévoyait, lui, une taxe entre 0,5 et 1%, et cela nous permettrait de vaincre le péril climatique, la pauvreté, et de sauvegarder notre biodiversité sur Terre et dans les océans. Alors, allons-y, et surtout, n'oublions pas de marteler que tout ce que nous faisons, réalisons aujourd'hui, est notre unique futur. À mardi prochain.
Merci Serge Auru, merci Jacques Rougerie, merci Pierre Bahurel. C'est pas du vent, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, Arnaud.
Nous nous retrouverons évidemment pour parler du climat et de ce qui se négocie à New York. À demain, même planète, même heure.